Choix par balle, c'est les Allemands sur le front de l'Est qui regroupaient les populations juives et qui les massacraient. Donc ça s'est fait essentiellement en Ukraine, comme nous on a pu aller voir. On l'a vu aussi en Pologne, ils sont en train de le voir en Biélorussie, si je dis pas de bêtises. Donc c'est surtout ce phénomène où les Allemands regroupaient des populations juives et les massacraient tout simplement.
Que ça commence printemps été 41 et ça s'est arrêté en 43, donc assez regroupé dans le temps, si on peut dire comme ça, avec, comme on l'a dit, 1,5 ou 2 millions de victimes suivant les chiffres.
Himmler et Heydrich ont, dès 1939, mis en place des commandos d'exécution, les Einsatzgruppen, composés de SS, de policiers et de soldats de la Wehrmacht, qui raflent les Juifs. Les SS emmènent les Juifs dans les bois et leur donnent à chacun une pelle pour creuser leur tombe. Mais ce procédé est jugé trop long. Alors les SS vont creuser de longues fosses communes où les Juifs vont directement se coucher sur les morts précédents. Ce procédé est encore trop lent. Les SS font aménager un ravin près de Kiev, un endroit appelé Babi Yar, et exécutent en deux jours 33 771 juifs, les hommes, les femmes et les enfants. Le meurtre prémédité et de sang-froid d'un million de juifs portera le nom de Shoah par balle.
La Shoah par balle, c'est le sujet traité par des étudiants et étudiantes de l'Institut National Universitaire Champollion dans le cadre d'une unité d'enseignement intitulée « Héritage européen et réflexion citoyenne », une unité d'enseignement soutenue par le Conseil départemental et établie en partenariat avec l'association Yarad Inunum, une association créée en 2004 par le Père Desbois pour mener un travail de mémoire sur les victimes de la Shoah par balle. Mise en place au lendemain des attentats de 2015, comme la réaction opposée par des universitaires à ces tragiques événements, cette unité d'enseignement qui mêle trois disciplines, sociologie, histoire et géographie, a été reconduite pour l'année 2017-2018. Elle comporte un voyage en Ukraine au cours duquel étudiants et étudiantes peuvent mener une enquête de terrain et rencontrer des témoins. Des témoins longtemps restés silencieux qui prennent aujourd'hui la parole pour raconter les massacres auxquels ils et elles ont assisté. C'est la seconde partie d'une émission consacrée à cette unité d'enseignement héritage européen et réflexion citoyenne que propose l'Institut National Universitaire Champollion. Un entretien avec Sandrine Victor et Yigal Fidjalkov, maîtres de conférences respectivement en histoire et en sociologie, avec aussi Alex, Kelly, Maël et Teiva, étudiants et étudiantes qui suivent ou ont suivi cette unité d'enseignement. Dans cette deuxième partie, on aborde avec elles et eux la spécificité du travail mené dans cette unité d'enseignement qui bouscule quelque peu les pratiques universitaires. On revient sur leur motivation personnelle et on tente, avec toute la difficulté que cela comporte, l'analyse réflexive des apports d'une telle recherche.
Comment ça se passe ? Donc, en gros, on est le groupe avec deux traducteurs. On est en face d'un témoin qui a entre 85 et 90 ans. Un traducteur va poser la question en français, la traductrice donc, va le traduire au témoin ukrainien, et nous, on va écouter et on va marcher à travers le village et on va voir par exemple où était le ghetto juif. Il nous disait où était tel marchand ou le médecin ou ce genre de choses. Et donc nous, on va écouter, on va imaginer bien sûr. À la fin, on va aller sur les lieux de la fosse Donc c'est un échange très instructif, mais dur aussi, parce qu'on voit toute l'émotion que nous renvoie le témoin. Et l'esprit travaille énormément, donc on se met vraiment, vraiment à la place du témoin, en fait. On revient à cette période. Et enfin, on va aller, donc, sur, comme je l'ai dit, sur les lieux de la fosse. Et puis là, on va voir le désastre, je dirais. Donc, on va avoir des récits sur comment le témoin a vu l'extermination des Juifs. Il va nous raconter certains détails, certaines petites choses que lui se souvient, parce que c'est quelque chose qu'il ne pourra jamais oublier. Donc c'est avant tout un échange et je dirais une découverte, entre guillemets, parce que c'est jamais très agréable de découvrir ça.
Sur le travail mené, pour poursuivre là-dessus, donc c'est une unité d'enseignement qui associe trois disciplines, histoire, géographie, sociologie, ce qui est assez rare dans l'université française, qui a plutôt tendance à cloisonner. Alors les enseignants-chercheurs, vous avez peut-être l'habitude de travailler à plusieurs, de croiser les disciplines. Pour les étudiants et étudiantes, c'est peut-être un peu différent. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette expérience, quel apport vous trouvez au fait de rencontrer des étudiants et étudiantes qui pratiquent une autre discipline que la vôtre ?
Moi, pour ma part, je suis en sociologie et le fait que cette unité d'enseignement se déroule avec des étudiants qui sont en histoire ou en géographie, mais ça permet déjà de mieux comprendre la Shoah par balle dans une vision historique et dans une vision aussi géographique, parce que l'Ukraine a un territoire particulier qui permet de comprendre mieux comment les événements se sont passés. C'est un privilège aussi dans le sens où on n'a pas la même vision du témoin en sociologie par rapport à l'histoire. Et dans le cadre de cette unité d'enseignement, le témoin qui est une personne qui a vu ce qui s'est passé, l'intérêt c'est de savoir en quoi ça peut devenir une preuve d'un événement qui s'est passé. Donc c'est pas vraiment la même vision qu'en sociologie.
Il y a à la fois des sociologues, des historiens, des géographes.
Hein. Ouais,
il y a
un panel représentatif. Trouver, ouais. La géographie peut-être, du coup, quel rôle elle joue ? Parce que la sociologie, l'histoire, on le voit assez clairement par rapport à un tel sujet. La géographie, est-ce qu'on peut préciser le rôle de cette discipline ?
Il faut savoir que l'homme, de manière générale, a toujours eu un rapport, on va dire, plus ou moins de proximité avec son milieu. Donc, par exemple, la topographie de l'Ukraine est toute particulière par rapport à d'autres pays. L'Ukraine est principalement composé de plaines, par exemple. Et du coup, pour les Juifs, à cette époque, il était difficile, en fait, d'échapper aux Einsatzgruppen qui les poursuivaient, qui pouvaient facilement les repérer. Là où, par exemple, en Biélorussie, donc au nord de l'Ukraine, mais il y avait énormément de forêts, donc énormément d'individus qui pouvaient se cacher dans ces forêts. Donc, tout ce qui touche la topographie, tout ce qui touche les lieux, mais aussi, par exemple, les villes et villages. Et c'est intéressant, il est intéressant de s'y pencher dessus, c'est-à-dire que d'habitude, on a souvent, par exemple, tendance à penser que les lieux de massacre, de meurtre et tout ça vont être excentrés, ne vont pas se trouver au niveau des villages, mais plutôt en dehors. Et là, on voit qu'en fait, c'est une histoire de proximité, voire même carrément dans les villes et villages. Donc, il est intéressant, en tant que géographe, de pointer du doigt aussi certaines problématiques en disant que, ben voilà, ici il s'est passé quelque chose, ici il s'est passé quelque chose, ça peut s'expliquer soit, comme je vous l'ai dit auparavant, par la topographie, soit tout simplement à travers le milieu, à travers, par exemple aussi, le climat. Par exemple, les Einsatzgruppen ne voulaient pas forcément commencer des processus d'extermination lorsqu'il faisait nuit, ils préféraient mieux lorsqu'il faisait jour.
Et la géopolitique.
Et la géopolitique, évidemment.
Vous écoutez la seconde partie d'une émission sur l'unité d'enseignement héritage européen et réflexion citoyenne proposée par l'Institut National Universitaire Champollion depuis la rentrée 2016. Une unité d'enseignement qui donne lieu à un travail sur la Shoah par balle et qui mêle trois disciplines, sociologie, histoire et géographie. Une émission enregistrée en décembre 2017.
Et pour les étudiants et l'étudiante qui sont là, les motivations, pourquoi vous avez choisi de rejoindre cette unité d'enseignement ?
Moi, j'en avais pas mal discuté avec Madame Victor l'année dernière. On avait pas mal discuté un petit peu de leur voyage, ce qu'ils avaient vu. L'organisation des conférences avait été aussi très intéressante, puisqu'elle permettait aussi de faire participer, mais aussi de montrer ce qu'ils avaient pu voir là-bas. Et donc moi, ça m'a de suite beaucoup intéressé. Puis ça permet de participer aussi à un projet qui nous dépasse un peu, c'est-à-dire raconter, faire mémoire aussi d'événements qu'on ne connaît pas trop. Parce que moi, personnellement, la Shoah par balle, je ne connaissais même pas le terme. Et donc, c'est aussi faire mémoire, raconter ces événements-là, D'autant que, voilà, comme on l'a dit, les témoins vont bientôt mourir. Et donc, il faut peut-être se substituer aux États de l'Est qui ne font pas mémoire et nous, essayer d'apporter à notre échelle ces réponses.
Je partage la même motivation que Maëlle sur le fait que j'étais très curieuse de savoir ce que c'était la Shoah par balle, parce que c'est quelque chose que j'ai pas abordé ni au collège, ni au lycée. Enfin, seulement sur la dimension des camps d'extermination. Ensuite, c'est dans une vision un peu plus large, c'est de comprendre tous les phénomènes de racisme qu'il y a aujourd'hui.
Bon, pour moi, c'est un peu différent parce que je suis parti avec le premier groupe l'année dernière. Donc, c'est un projet qu'on n'avait pas trop entendu parler. Enfin, moi, honnêtement, je vous avoue que j'en avais pas trop entendu parler. C'est un ami du groupe qui m'a dit « Ouais, voilà, Alex, il y a ce projet qui se monte. Est-ce que ça t'intéresse pour l'année ? Il y a un voyage d'études en Ukraine. Le thème, c'est la Shoah par balle. » Donc, en tant que historien ou plutôt apprenti historien, moi, Shoah par balle, la Deuxième Guerre mondiale, c'est des choses qui m'intéressent. Je vous avoue que le voyage en Ukraine, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai été vraiment surpris et marqué. Donc pour moi, je pensais voilà, que ce serait un voyage où on allait voir deux, trois petites choses sur la Shoah par balle, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit si fort en émotion et si dur. Et c'est surtout aussi, j'ai choisi ça pour toutes ces questions sur le racisme actuellement, pour partager tout ce qu'on a vu et essayer de faire prendre conscience aux autres. Ce qu'on a vu est que les phénomènes qui se sont passés pendant la Deuxième Guerre mondiale sont encore d'actualité.
En fait, disons que c'est en terminale où en fait, j'ai eu la chance de prendre la voiture et de partir du jour au lendemain. Je suis parti en Normandie. Et en fait, j'ai jamais vraiment été intéressé par l'histoire de manière générale. J'ai rien contre les historiens. Mais je trouvais la Seconde Guerre mondiale, je trouvais que c'était quelque chose d'assez effrayant. Mais en même temps, je me suis dit que c'était quelque chose qui était fini, achevé. Parce qu'à ce moment-là, comme la majorité des étudiants ici, on n'a même pas connu la guerre froide. Et que ce soit pour les professeurs, enfin comme nous tous ici, on n'a jamais connu la Seconde Guerre mondiale, que je sache. Donc c'est vrai que sur le coup, on est assez chanceux de ne pas connaître, de ne pas savoir ce que c'est vraiment la guerre. Et puis lorsque je suis allé en Normandie et que j'ai vu qu'il restait sur les plages, il restait encore des morceaux en fait de ports artificiels qui flottaient encore sur la mer. Et là, à ce moment-là, je me suis dit en fait 70 ans, c'est pas si loin que ça. Et du coup, quand on m'a proposé l'UO, donc héritage historique, je me suis dit que c'était une excellente occasion de pouvoir déjà approfondir la connaissance sur tout ce sujet et notamment sur la Shoah par balle, parce que comme vous l'avez dit un peu tout le monde, hein, c'est quelque chose qui n'est pas assez mis en avant, c'est plutôt l'aspect meurtre un peu éloigné tout ça. Bon, voilà. Et du coup, c'est vrai que je trouve intéressant d'une part de s'intéresser à Shoah par balle et de l'autre aussi de voir que, enfin, d'aller sur le terrain et de se dire, ben voilà, c'est passé là, quoi. De dire qu'il s'est passé tout ça et qu'en même temps, on a des témoins qui peuvent nous raconter. Ça, c'est pas une chance qu'on aura, je pense, plus tard dans la vie, quoi.
Je suis aigri par l'histoire, apprendre me fait mal à la tête, j'y arrive pas, ça m'embête. Je suis aigri par l'histoire, chaque pays a ses victoires, même s'il a eu ses défaites. Mais pour cacher les défaites, on nous raconte des histoires. Je n'ai pas de terroir, j'ai des tiroirs dans la tête, accrochés comme une casquette avec des problèmes de mémoire. J'ai des problèmes de mémoire, du coup je me répète, 1-2-1-2, microphone check, 1-2-1-2, je pars. J'ai des problèmes de mémoire, l'école a fait des siennes, pour que j'apprenne et j'apprenne, mais il ne reste qu'un trou noir. Pourtant j'ai espoir qu'un jour toutes les choses me reviennent et que je puisse être en bon terme avec ma saleté d'histoire. Mais j'ai des problèmes de mémoire, des questions qui font des graines, des questions qui me reviennent laissées longtemps au placard. Même les défaites ont leur gloire, la gloire est une défaite. Ça dépend de l'interprète, du pays, du regard, du pouvoir. L'histoire appartient à la plus grosse gâchette. Et pour celui qui objecte, la sienne est comme un bobard. Car dans ce monde qui brade qu'une seule facette, même l'histoire se veut exclusive, fluette et avare. L'histoire ne raconte pas l'histoire, elle nous raconte la moitié des faits. L'autre moitié s'est faite couper la langue, son silence est crié. Dans l'antre du savoir, il manque des pièces, des vérités, des versions, une comparaison, une mémoire. Il y a les tortures et les rapes, elles sont ni morales ni saines. Mais quand elles se mutent, se taisent, l'histoire a comme une palave. Je navigue sur cette palave, Iseo, matelot pêche, matelot qui de sa pêche obtient des fossiles sans trace. La France a des problèmes de mémoire, elle connaît Malcolm X, mais pas France Fanon, pas le FLN. Connaît les blacks, mais pas les noirs. Diffuse les stories, cow-boy et indienne, mais de la tragédie, cow-boy et algérienne, faut rien savoir. Il y a des choses anticipées, c'est pas de l'histoire ancienne. Les Kanaks, personne n'enseigne, massacre Vendée et Bretagne. Il y a des choses qui datent sur l'esclavage et son règne. On débat pas mais on fête, et la fête cache les épaves. Tout le monde dit plus jamais ça, mais c'est de là comme malsaine. Les processus restent les mêmes à l'heure où tout le monde en parle. Tout le monde en parle comme d'un cas, une exception inhumaine. Ça rend les choses si lointaines et la mémoire devient femme. La République était là, à savoir si c'est la même. Elle change de numéro d'enseigne, d'adresse et de façade. Mais elle n'ose pas gratter en elle, elle refoule et elle s'enchaîne. Et tout ce qu'on nous enseigne, c'est que l'époque était malade. C'est que l'époque était malade, mais tu parles quand bien même. La maladie viendrait d'un système, tant qu'il pèse on sera malade. Devoir de mémoire, plus jamais ça, hein, et puis quoi. Quand on garde intact les liens, que la gangrène escalade. Les humains sont comme des arbres, ils ont des racines aux semelles. Pour certains ils sont lointaines, et ceux-là ils en ont marre. Que de leur lointaine histoire, plusieurs versions se démêlent. Pour atteindre les deux bouts, ils font tout seuls leur grand écart. Système assimilatoire qui crée des êtres à problème. Identité en gruyère, orphelin de leur mémoire. Vu qu'on passe à la passoire, les causes de tous nos mystères. Nos causes partent, restent les problèmes, et tout ça crée des signards. Intégration à l'entonnoir qui prône un modèle unique. Pour ceux qui ont cette saleté de chance d'être multiples, au revoir. Système assimilatoire, mise à nu des tuniques. Mise à nu à l'identique et mise du voile à l'histoire. Mais l'histoire n'est ni sacrée ni unique. Pour un pays qui se dit laïque, elle est simple, extrémiste, un dieu auquel faut croire. Le pays a du mal à regarder ses chapitres. Comme lui pluriel multiple, nous laisse près les limites. Avec des problèmes de mémoire. Des problèmes de mémoire.
Vous écoutez la seconde partie d'une émission sur l'unité d'enseignement héritage européen et réflexion citoyenne proposée par l'Institut National Universitaire Champollion depuis la rentrée 2016. Une unité d'enseignement qui donne lieu à un travail sur la Shoah par balle et qui mêle trois disciplines, sociologie, histoire et géographie, une émission enregistrée en décembre 2017.
Et pour revenir au croisement des disciplines, sur l'organisation des cours, comment ça se passe? Il y a des enseignants des trois disciplines qui interviennent auprès des étudiants?
On essaie de travailler ensemble. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une séance tenue par un historien et la séance d'après par un sociologue. À toutes les séances, on essaye tous d'être là. Alors bon, quelquefois, ce n'est pas possible. Mais en général, il y a au moins deux disciplines représentées. Plus, donc, là, pendant ce semestre, une séance sur deux, il y avait nos partenaires de Yahadi Nounoun qui descendaient de Paris et qui venaient traiter un cas très concrètement avec nous, donc à partir d'archives, à partir de plans, à partir du terrain, puisque bien souvent, ils rentraient eux-mêmes d'Ukraine, ils préparaient notre venue, et donc, ils descendaient de l'avion, ils arrivaient, ils nous expliquaient, voilà, on a vu ça, on va voir ça, et ensemble, donc, on allait mettre tout ça en théorie. Ce qui est assez intéressant, en fait, parce que, justement, dans la croisée des disciplines, c'est vrai que l'histoire va amener le cadre chronologique, la géographie, le contexte, mais la sociologie va nous permettre de comprendre les mécanismes. Et en fait, à partir des dossiers que les partenaires de Yaran nous amènent, eh bien, chacun va venir remettre ça dans le temps, remettre ça dans l'espace, et puis essayer de comprendre vraiment les mécanismes, les phénomènes. Le but, in fine, étant à la fin de l'année d'avoir mené une réflexion sur le racisme très actuel, hein, parce que l'antisémitisme n'est qu'une forme de racisme, hein, c'est un petit peu la leçon. Et donc, retrouver les mécanismes que l'on aura vus au travers de l'exemple de la Shoah par balle dans ce qu'on peut vivre là au quotidien dans notre société.
Et alors justement, peut-être sur cet écho avec le présent, on va peut-être aborder la question de la restitution du travail que vous menez dans le cadre de cette unité d'enseignement. Vous avez évoqué les conférences qui ont eu lieu l'an passé, qui ont créé les vocations des étudiants qui ont rejoint cette unité d'enseignement. Est-ce qu'on peut préciser l'exposition, enfin les expositions, parce qu'il y en a eu une, mais qui s'est déplacée, et puis les conférences que vous avez faites et les rencontres dans les établissements scolaires ? Alex, qui était là l'an passé.
Du coup, pour les conférences, on a chacun des thèmes. Donc chacun, on a présenté notre thème pendant une semaine. Donc chaque groupe avait un soir. Donc on parlait de notre thème et il y avait après un échange avec les personnes assistant à la conférence. Donc c'était quelque chose de très enrichissant et surtout, je veux dire, le plaisir de partager ce qu'on a vu. Parce qu'il faut quand même qu'on partage ce qu'on a vu. Sinon, je pense que ça ne sert pas à grand-chose d'être parti. Donc on a eu en premier lieu donc ces conférences. Ensuite on a eu on est allé dans un collège où on a rencontré trois classes. On leur a exposé un peu le projet qu'on a fait. On était cinq ou six. On a vu par exemple une classe qui s'intéressait énormément au sujet. Et on en a vu une qui s'en qui s'en foutaient un peu. Donc sur le moment, c'est un peu dur de voir que ce qui s'est passé à 70 ans, ça s'est reproduit dans d'autres cas. Et on voyait que ces jeunes, si je peux me permettre, s'en foutaient un petit peu. On a eu ensuite une exposition, je crois que c'était au conseil départemental. Et là, on a fait la nuit des chercheurs, c'était il n'y a pas longtemps, il me semble.
Au mois de septembre.
Au mois de septembre, ouais. Donc, où là, on avait encore une exposition et où on pouvait encore parler avec d'autres personnes qui n'avaient ni assisté aux conférences, qu'on n'avait pas vu, tout simplement, où on peut discuter de tout ça et avoir un peu les avis d'autres personnes, avoir de nouvelles discussions, en fait. Et c'est un travail sur du long terme et ça ne s'arrête pas uniquement aux conférences ou aux classes de collégiens.
Et alors, l'exposition, elle a été conçue intégralement par les étudiants et étudiantes
Oui, intégralement. C'est effectivement un travail qui a duré toute l'année. Cette année, on fait autre chose. Sandrine en parlera. Moi, je vais juste rappeler pour ce qui est de l'année dernière. C'est assez complet, en fait, ce qu'il leur est demandé, ce qui est demandé aux étudiants, parce que ce travail donc, de mise en forme d'une exposition, c'est un travail c'est quand même extrêmement compliqué, parce qu'il faut à la fois restituer, dans le cadre d'une réflexion, ce qui a été travaillé pendant toute une année, le mettre en forme synthétique de panneaux, et surtout sous une forme vulgarisée pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Donc ça, c'est un des exercices. Le second exercice qui leur a été demandé, c'était de faire une conférence donc, pour chacun des groupes, tous les soirs de la semaine. Il faut quand même dire qu'on a été relativement épaté, nous et puis l'institution de manière générale, parce que c'était plein tous les soirs. Il faut savoir qu'ici, même quand on fait venir des grands universitaires, on a du mal à remplir les amphithéâtres, donc c'est vous dire notre satisfaction. Et le troisième exercice qui leur a été demandé, effectivement, c'était d'aller à la rencontre d'élèves plus jeunes, donc de lycée ou de collège. Le lycée, ça a été difficile à mettre en place, mais cette année, on pense y arriver. Et donc, ils ont eu la possibilité de s'adresser aux collégiens et d'essayer aussi de s'adapter à ce public un peu particulier. Donc, ces trois exercices qui sont quand même compliqués, sachant que nous débutions aussi dans notre façon de travailler et que l'année dernière, nous avions l'ambition de récolter des données sur le terrain, ce qui a été difficile. En revanche, cette année, nous pensons que ce sera possible, puisque une des ambitions, c'est à la fois qu'ils se cultivent dans le domaine. Vous avez compris que c'est pluridisciplinaire, donc en histoire, en géographie, en sociologie. C'est aussi de recueillir des données de terrain. Donc d'aller sur le terrain et d'expérimenter ce que sont nos pratiques professionnelles lorsqu'on fait une recherche. Et enfin, c'est les réutiliser dans le cadre d'une transmission, dans le cadre d'un exposé qui s'adresserait à un plus large public. Donc vous voyez, c'est assez complet, c'est peu d'heures, c'est assez exigeant. Je crois que la dernière, il nous l'avait dit, mais au final, c'est une expérience dont on est tous ressortis relativement satisfaits. Je crois qu'Alex ne regrette pas.
Et alors pour cette année, Madame Victor, donc, qu'est-ce qui est prévu?
Oui, donc le but étant en fait d'essayer de réfléchir, de s'adapter par rapport à l'expérience qu'on a récoltée l'année dernière. On n'a pas voulu refaire une exposition. Donc cette année, on a essayé de se mettre au diapason des nouveaux médias. Et donc on va la demander aux étudiants de faire des vidéos sur leur sujet, sous un format très YouTube, hein, c'est-à-dire 5-10 minutes maximum, pour pouvoir en fait diffuser ces vidéos lors de la semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Ces vidéos servant en fait d'introduction aux conférences, puisqu'on garde l'exercice de la conférence. On pense que pour les étudiants, c'est très bien. C'est un vrai format où ils vont pouvoir vraiment montrer toute l'ampleur de leur travail, autant théorique que de terrain. Et donc, ces capsules vidéo, si vous voulez, on va les diffuser à ce moment-là. Et après, elles seront mises en ligne sur une page web qu'on est en train de créer. Et donc, elles permettront aux étudiants, mais aussi aux élèves, collèges, lycées, d'avoir accès en fait, à ces ressources. Et on espère que, si vous voulez, à deux ou trois coups, eh bien, les enseignants, collèges, lycées, pourront venir chercher auprès de ce projet Héritage européen eh bien, des ressources pédagogiques à mener dans leur propre classe.
Et là, le conseil départemental est lui aussi prêt à aider au financement de ces vidéos et à relayer leur diffusion peut-être sur le site qu'ils ont.
Nous espérons qu'il vous entendra. Voilà, en tout cas, c'est une invitation. Je ne manquerai pas de leur adresser. Je vous remercie infiniment.
Et alors peut-être sur l'apport personnel, enfin l'apport pour les étudiants. Alors on aura compris quand même que c'est une remarquable initiation à la recherche, notamment par le travail d'enquête qui est demandé, par la restitution sous forme de colloques ou de présentations dans des expositions et puis pour l'année à venir dans des vidéos. Au niveau des étudiants, dans la suite, est-ce que vous pensez le réutiliser dans le cursus que vous allez mener?
Ben, moi je partais au tout début pour faire prof, puis la recherche m'a vraiment attiré.
Et c'est vrai que cette année, se replonger dans des sujets, moi qui m'avaient un petit peu intéressé avant, mais se replonger vraiment dans ces sujets-là, a fait ressurgir chez moi, enfin en tout cas le désir de travailler vraiment là-dessus dans la recherche. Oui. Pour moi, c'est un petit préambule de ce que je voudrais faire après. Oui.
Les autres, je sais pas, Alex peut-être, qui a participé l'année dernière au programme, cette année, est-ce que vous avez l'occasion de réinvestir? Est-ce que ça nourrit votre pratique universitaire de cette année?
Bah, faire les conférences ou les expositions, c'est toujours un plus, je pense, pour soi, pour même un exemple tout bête, pour l'aisance à l'oral ou pour parler, pour s'exprimer. Après, moi, dans mon cursus après universitaire, je doute que ça me serve à beaucoup, parce que j'aimerais me rediriger un peu sur autre chose, mais je sais que c'est quelque chose qui me servira pour toujours, pour personnellement, même si je refais par exemple plus de conférences ou plus d'expositions, mais je sais que ça me servira toujours dans toute ma vie.
Oui, alors peut-être personnellement, justement, bon, dans la recherche, on est censé garder un peu d'objectivité, mais c'est vrai que c'est un sujet, vous l'avez dit, qui suscite beaucoup d'émotions. Personnellement, en quoi ça peut vous transformer d'avoir travaillé sur un tel sujet, d'avoir fait ce voyage en Ukraine, d'avoir rencontré ces témoins?
On a une autre vision sur les choses, c'est-à-dire que avant, je pouvais entendre certaines personnes qui faisaient certaines allusions racistes où on se disait, bon, mais voilà, c'est ce qu'ils pensent, ça choque, mais bon, ben voilà, c'est comme ça, c'est malheureusement chacun ses idées. Et sauf que maintenant, dès que j'entends quelqu'un qui dit quelque chose de raciste, je lui dis non. Je lui dis non, je suis pas d'accord avec toi, c'est pas le cas. C'est surtout un autre visage sur un peu sur la société, sur tout ce qui se passe avant, c'est-à-dire qu'on fait plus attention à certaines choses, on fait plus attention à toutes ces remarques racistes, au moindre signe raciste. Je pense, personnellement, et je pense que le reste du groupe, ça doit être sûrement pareil, c'est qu'on a un autre visage un peu sur tout ce qui se passe aujourd'hui. On fait beaucoup plus attention à certaines petites choses qui, avant, ne nous interloquaient pas.
Après, là, l'objectif de l'UO, évidemment, c'est pas de faire du prosélytisme. C'est pas du tout notre intention. Mais c'est vrai que, pour reprendre ce que disait Igal tout à l'heure, c'est que les étudiants, après les attentats, étaient venus nous voir en disant « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut s'armer ?» En fait. Et là, le but de cette UE, c'est en fait de leur donner des armes de réflexion citoyenne. Après, c'est vrai que bon, bah, pour Alex, c'est refuser l'attentisme, refuser la passivité face aux événements. Pour d'autres, ça va être d'être beaucoup plus en dégagé. Et puis pour certains, c'est juste se rendre compte en fait de l'ampleur du phénomène et lire l'actualité avec un œil beaucoup plus impliqué, quelque chose de plus personnel. Donc voilà, déjà, si on arrive à faire ça, si on arrive à mener ça vis-à-vis des étudiants, nous, on estime qu'on aura gagné.
Je pense que, enfin, moi, je suis pas encore parti, mais je pense que ça laisse pas indifférent. On peut pas ressortir de là en se disant « oui, c'est comme ça », non. Et je pense que c'est aussi cultiver de la vigilance et repérer tous les petits signaux de haine, de nationalisme qui conduit forcément à l'exclusion. Et puis, c'est ça qu'il faut essayer d'enrayer, par le savoir, par la connaissance des choses. Et si on discute, si on en discute, si on sait, forcément, on ne peut pas accepter ces exclusions, ces discours-là.
Fin de la seconde partie de cette émission consacrée à la présentation de l'unité d'enseignement Héritage européen et réflexion citoyenne proposée à l'Institut national universitaire Champollion. Merci à Sandrine Victor et à Igal Fidjalkov, merci à Kelly, Maël, Teiva et Alex. Merci à Isabelle Clark et à Daniel Costel pour l'extrait de leur documentaire Apocalypse, la Seconde Guerre mondiale. Merci à Rossé pour la musique et à Will pour le soutien et l'aide technique. Cette émission a été enregistrée en décembre 2017, au moment où Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur du gouvernement Macron, adoptait des circulaires pour augmenter la durée de séjour en centre de rétention administrative, pour faire intervenir des forces de police dans les centres d'hébergement afin de traquer les sans-papiers, qui plus est, en demandant la collaboration des travailleurs sociaux, comme un écho, plus ou moins vague et à coup sûr inquiétant, des temps troublés sur lesquels travaillent étudiants et étudiantes de l'unité d'enseignement, héritage européen et réflexion citoyenne, comme un défi lancé au devoir de mémoire qu'ils et elles accomplissent.